rappeler ce matin que on atteint Dieu par une voie. Satan parle de voie et je crois qu'il a raison. Une via. C'est-à-dire qu'au fond, la voie, ça va jusqu'à la porte. Puis la porte, on tape dessus, on n'entre pas. Vous n'entrez pas dans le mystère de Dieu par votre intelligence. Vous n'entrez pas dans le mystère de Dieu. Vous restez à la porte. Vous tapez toc-toc. Personne ne répond. Dieu seul peut répondre. Il faut bien taper. Et c'est justement ce que saint Thomas a cherché dans ces cinq voies. Et il les appelle des voies. Il dit qu'elles prouvent, mais il appelle des voies. C'est des voies qui conduisent à affirmer « Ah, là, il y a un être absolu. Nous avons vu sa trace. » La trace de Dieu, du Créateur. La trace du Créateur n'est pas dans le mouvement. Le mouvement ne nous dit rien de Dieu. Elle n'est pas dans le plus et le moins. Elle n'est pas dans la causalité exemplaire. Saint Thomas cherche dans ses voies à voir où il y a trace de la création. Qu'est-ce qui, en vous, tel que vous êtes, qu'est-ce qui, en vous, est trace de la création ? Qui fait que, oui, vous dépendez de vos parents, vous dépendez de tout l'atavisme de vos parents, donc de tout cet atavisme-là. Vous avez un œil droit qui est un peu plus développé que l'œil gauche. Et ça se répète de génération en génération. Il y a une trace. Et quand on connaît ça, ah, tu es donc de cette génération-là. Ça se voit. Il y a un sourire des lèvres qui est propre, frère et sœur, tiens, il sourit comme ça. Et je retrouve ce sourire en dehors. C'est, la méthode inductive est une méthode très extraordinaire. C'est la méthode du chien de chasse. La méthode du chien de chasse, il est inductif, le chien de chasse. Merveilleux. Il sent. Il y a quelque chose. C'est par les effets, il est conduit au feu. Et au fond, on est très peu inductif. Mais nous sommes farouchement raisonnables. La raison. Et pour nous, il dit que la démonstration qui vaut la peine pour la science. Et c'est vrai que les sciences ordinaires sont démonstratives. Dans dit là, c'est une science de chercheur. L'intuition. C'est une science de chercheur. D'une certaine manière, je ne prouve rien, je découvre. La même chose, découvrir et prouver. Pour découvrir, il faut frapper la bonne porte. Parce qu'il y a des fausses portes qui ne découvrent rien du tout. Et saint Thomas signale qu'il y a quatre. La cinquième, elle nous conduit à l'intelligence. Cinquième voie, l'exercice de Dieu conduit à l'intelligence. Donc il y en a quatre. Je pars du mouvement. Tout mouvement présuppose un autre qui n'est pas dans le mouvement. Tout mouvement, tout ce qui est ému par un autre. Abalio. Tout ce qui est ému par un autre. C'est la première chose. Donc, Dieu n'est pas dans le mouvement. Le mouvement ne me dit rien de Dieu. Or, au fond, aujourd'hui, on cherche Dieu dans le mouvement. Deuxième voie, l'efficacité. Dieu n'est pas dans l'efficacité. Dieu n'est pas dans l'efficacité. Il n'est pas dans le mouvement, il n'est pas dans l'efficacité. C'est la seconde voie. Alors où est-ce qu'il est ? Il est au-delà de l'efficacité. L'efficacité, elle est toujours en vue de quelque chose. Telle ou telle chose, en vue de la chose. Je vais au marché. Oui, je vais au marché. Est-ce que je vais au marché pour aller au marché ? Ah bon, va au marché, ça te fera du bien pour ta santé. Non, il vaut mieux aller autre part, parce qu'il y a trop de monde à ça. Trop de monde au marché. Va au marché pour acheter des légumes. Acheter des légumes. Les légumes ne sont pas le marché. Seconde fois, c'est l'efficience. Dieu n'est pas dans l'efficience. Dieu n'est pas, troisième fois, Dieu n'est pas dans le possible. Le possible, qui est en référence avec le nécessaire. Il n'est pas dans le possible. Pourquoi ? Parce que Dieu est premier et que le possible n'est jamais premier. Dieu n'est pas dans le possible. Dieu n'est pas dans le plus et le moins. Le plus et le moins, c'est l'ordre. Dieu n'est pas dans l'ordre. Il est au-delà. Il n'est pas dans le mouvement, il n'est pas dans le possible. Donc les voies, c'est nous indiquer là où Dieu n'est pas. Dieu n'est pas dans le mouvement, Dieu n'est pas. Où est-ce qu'il est Dieu alors ? Ah. Cinquième voie montre l'appétit. Ce n'est pas le mouvement. quelqu'un qui dirige. Ah, je remonte de l'appétit tout de suite à l'intention. L'intention qui regarde la finalité. Qui regarde la fin. Dieu est dans la fin. C'est dit dans saint Thomas d'une façon très dense, et on met très longtemps avant de comprendre ce que saint Thomas veut dire. J'ai relu Tête reposée. Quelque chose qui est un résultat, le mouvement, le possible, le plus et le moins, ce qui mesurait ben, la cause exemplaire. Tu n'es pas dans tout ça. Tout ça, c'est relatif. C'est relatif à un autre. Tout mouvement est par un autre. Ah, Dieu n'est pas dans le mouvement, mais l'autre est avant le mouvement, est premier. Dieu est dans ce qui est premier, jamais dans ce qui est second. Tout ce qui est second n'est pas de Dieu et ne peut pas nous faire découvrir. C'est ça que saint Thomas nous montre dans les voies. En réalité, il n'y a qu'une voie. Mais pour nous, cette voie a cinq modalités. Parce que de fait, nous sommes enveloppés du mouvement, nous sommes enveloppés du possible, nous sommes enveloppés de ce qui est justement second. Nous ne sommes pas enveloppés par ce qui est premier. Nous sommes attirés par ce qui est premier. C'est pas enveloppé. Le mouvement nous enveloppe. Le possible nous enveloppe. Et nous attire pas. C'est ça qui est très difficile, vous voyez. Dieu n'est pas. La négation est première. Et nous risquons alors de rester dans la négation. Et dire, c'est le néant qui prouve que Dieu existe. Il y a quelque chose de vrai, puisque le néant ne peut pas être premier. La négation n'est jamais première. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le jour où on a mis la négation première, on a Sartre. Vous ne pouvez pas découvrir Dieu avec la négation première. Vous devez comprendre que la négation est toujours seconde. Et Dieu n'est pas second. Non, pas si Dieu est premier, il est au premier. C'est, je crois, très important pour nous de comprendre que les voies qui conduisent à Dieu exigent de nous de chercher ce qui est premier. Il y a un premier. Mais où? Il y a un premier. C'est nécessaire. Tout mouvement est par un autre. Tout possible est de nécessaire. Tout est relatif. Le plus c'est loin, l'ordre. Alors, ici, ce qui est des effets, ce qui est nécessairement second. Il faut saisir ce qui est premier. Dieu ne peut être que premier. Donc, c'est uniquement ce qui est premier qui me parle de Dieu. Uniquement ce qui est premier. Mais comment puis-je découvrir le premier ? Le second, ça va très bien. Je le découvre facilement. Mais ce qui est premier, ce qui en lui-même n'a aucune dépendance, en lui-même est absolu. N'est relatif à rien. Cherchez ce qui en vous n'est relatif à rien. Le premier. Et c'est pour ça que saint Thomas cherche les cinq. Vers un second. Il n'y a que le cinquième qui nous conduit à un second qui est absolu. L'intelligence divine. L'intention. Le gouvernement de Dieu. Important pour nous de comprendre ce que c'est que une argumentation a posteriori. Parce que nous ne sommes plus habitués du tout. Il n'y a pas d'argumentation a posteriori en mathématiques. Et nous sommes formés par les mathématiques. Donc, nous avons une peine énorme à comprendre que la démonstration a posteriori à partir de l'expérience nous permet de dépasser ce que ce que nous palpons est toujours second. Ce qui provient de nous est toujours second. Notre langage est second. Alors ceux qui cherchent Dieu dans le langage ne peuvent pas le trouver. Et c'est la grande erreur moderne. Comprend qu'en effet, cette voie inductive est très très fragile elle est très fragile et elle nous sert beaucoup dans la vie. Mais elle nous sert pour découvrir des choses banales de notre vie quotidienne. Mais quand il s'agit de découvrir ce qui est le plus parfait, nous pouvons découvrir par cette voie ce qui est principal. Ce qui est premier ne peut être par nous découvert que par une voie inductive. Ça, vous pouvez le comprendre. Alors, si au fond, ce qui est premier ne peut se découvrir que par une voie inductive, Dieu... Nous ne pouvons le découvrir que par une voie inductive. On ne peut pas découvrir Dieu autrement. Prenez toujours, à titre d'exemple, ça vous aidera, la visite qu'on fait à un musée, la visite, l'exposition. Je ne connais pas l'auteur, mais je peux voir ce qu'il a fait. Je vois ses tableaux. On me dit, l'auteur de ces tableaux, d'habitude ne vient jamais, et aujourd'hui il vient. Il est là. Est-ce que vous désirez le voir ? Si sa ceinture, si sa couleur, sa peinture vous a intéressé, c'est très bien de le voir. Je comprendrai mieux. Je pourrai l'interroger sur ce qu'il a fait. Et en effet, je le vois et je l'interroge sur ce qu'il a fait. Et je découvre. Celui qui a fait mon être, mon âme, celle qui a fait mon corps, ma mère et mon père. Ça me fait remonter tout simplement les généalogies. C'est intéressant, mais je suis différent parce que mon âme, elle, n'a pas de grand-père. Mon âme n'a pas de grand-père. Mon âme est créée directement par Dieu. J'affirme ça. Est-ce que je peux le prouver ? Oui. Je peux le prouver. Parce que mon âme, qu'est-ce qui jaillit de mon âme ? L'intelligence, la volonté. Ils me sont donnés. Par quelqu'un passer par l'âme pour découvrir Dieu. Je découvre l'âme en voyant qu'il y a en moi certaines choses qui s'imposent et qui ne sont pas voulues, qui ne sont pas aimées. Découvrir l'existence de Dieu sans passer par mon âme, mais c'est plus facile de passer par mon âme. Donc, j'aurai toujours deux voies d'accès vis-à-vis de Dieu, une corporelle, l'autre spirituelle. Deux voies d'accès vis-à-vis de l'existence de Dieu. Saint Thomas en donne une, Saint Augustin en donne l'autre. Et je dois aujourd'hui me rappeler des deux. Il y a deux voies d'accès. C'est curieux ça. Ces deux voies d'accès impliquent la métaphysique toutes les deux. Mais il y a deux voies d'accès. Nous le verrons progressivement. Une suffit, mais c'est plus intéressant de voir les deux. Parce qu'au fond, nous savons très bien que si je découvre que j'ai une âme spirituelle, indépendante de mon corps. C'est énorme. Je découvre qu'il y a en moi quelque chose qui n'est pas sensible, qui dépasse le sensible. Je découvre qu'il y a en moi quelque chose de spirituel, une flamme. Qui est plus proche de Dieu que mon corps. Mon corps, il fait appel à mes parents, il fait appel à tout cet atavisme. J'ai un arrière-arrière-grand-père, parce que l'atavisme implique de remonter 8 générations. Et ça, 8 générations. Ça fait que vous êtes la nouveauté de 8 générations. Et vous êtes le fruit de 8 générations. Bien sûrement, peut-être encore mieux. Est-ce que l'atavisme, au point de vue théologique, je le fais remonter à Adam et Ève. Je suis le petit-fils d'Adam. Et présentez-vous comme petit-fils d'Adam, vous verrez ce que ça fait. Et il est complètement fou. Et pourtant, non, c'est la vérité. Je suis petit-fils d'Adam. Je suis petit-fils d'Ève. Il y a un atavisme, et celui-là, il est fameux, puisque c'est le péché d'Adam et d'Ève qui m'accompagne dans mon corps. C'est lourd, l'atavisme d'Adam et d'Ève. C'est l'orgueil d'Ève qui a dit « non serviable, je ne servirai pas ». C'est lourd d'avoir cet atavisme du côté de la mer. Et cet atavisme, oui, il se traduit en théologie par le péché originel. Nous sommes nés dans le péché originel et nous sommes nés dans le péché originel à cause de notre corps. Parce que le corps fait la dépendance d'Ève. C'est extraordinaire. Votre âme, elle est créée directement par Dieu. C'est pour ça, quand j'ai une connaissance de mon âme, différente de mon corps, vous comprenez que l'affirmation de l'existence de Dieu est immédiate. Personne parmi les créatures ne peut se dire l'auteur de mon âme. Dieu seul est le créateur de mon âme. J'ai donc en moi quelque chose de divin, mon âme, créé directement par Dieu. Et si mon âme est créée directement par Dieu, mon âme a donc un sens de Dieu radical. Elle appelle ça. Puisqu'elle a été créée par Dieu. Elle appelle la présence de Dieu. Et tant qu'elle n'a pas découvert la présence de Dieu, mon âme n'est pas à l'aise. Parce qu'elle ne sait pas où est son Père. Découvre cette dépendance immédiate qui se fait par Dieu. Et mon âme, quand elle se découvre, il lui faut pas grand-chose pour découvrir Dieu. Que elle est dépendante. Très intéressant de voir la tactique du démon qui, depuis maintenant 25 ans, 30 ans, essaie de faire qu'on n'a plus le droit, humainement parlant, de parler de là. Un vieux professeur de biologie, un vieux professeur, il avait 50 ans. Il pleurait presque. J'ai enseigné toute ma vie la biologie. Et je parlais de l'âme. Et l'inspecteur, cette année-ci, est venu assister à mon cours et dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de parler de l'âme. Vous faites un cours de philosophie. » Là, il a dit « Mais la philosophie parle de l'âme. » Non, c'est la religion. En philosophie, on ne parle pas de là. Donc, on essaie de ne plus parler de l'âme au point de vue philosophique pour faire que la création de l'âme, c'est religieux. Toujours pour ne plus parler de Dieu. Bientôt, on arrive à cette conclusion. Parler de Dieu, c'est une attitude religieuse. C'est pas une attitude humaine. Mon intelligence ne peut pas par elle-même parler de Dieu. Si elle parle de Dieu, c'est parce que justement, elle a en elle un sens religieux. Sens religieux que Dieu existe. Et c'est vrai, l'âme a en elle-même un sens religieux que Dieu existe. Et il faut un long atavisme que l'homme affirme que l'âme n'existe pas. Alors, on a tout simplement ce qui est visible, le corps, et ce qui est la construction de l'homme. L'homme se construit en disant qu'il y a en lui quelque chose qu'il ne voit pas et qui est source de sa vie, l'âme. D'où vient-elle ? Avant, on disait directement de Dieu. Maintenant, on dit, on ne sait pas. La distinction de l'âme et du corps devient de fait actuellement une distinction qui n'est plus philosophique, qu'on ne veut plus admettre en philosophie, et qui est religieuse, donc qui dépend de la foi. Vous voyez, c'est terrible ça, alors que la distinction âme et corps, c'est le philosophe qui découvre. Platon, Aristote, en Grèce. Et en Grèce, à l'université, les professeurs m'ont demandé, à moi directement, parce qu'on était invités, est-ce qu'on peut philosophiquement affirmer que l'âme existe ? Ou est-ce que cela ne dépend pas de la foi. À Athènes, où ils ont découvert, il y a 2000 ans, l'âme. Oui, le progrès. 2000 ans plus tard. Oh non, là, n'existe pas. L'affirmation de l'âme, du purement philosophique, il y a toute un courant, je crois, démoniaque pour affirmer que l'âme, on ne peut l'affirmer que dans une attitude de foi. On ne peut pas affirmer une distinction de l'âme et du corps directement. Alors que je crois que toute la philosophie de Platon, toute la philosophie d'Aristote, c'est pour affirmer l'existence de l'âme. Philosophiquement, mon âme, je l'atteins philosophiquement l'amour et pas l'universel. Et mon âme, je peux l'affirmer, elle existe. Elle est créée par quelqu'un. Je ne vois pas qui existe avant moi, qui est Dieu. L'affirmation de Dieu, je suis capable de l'affirmer. Elle fait partie de ma personne humaine. Seulement la foi qui me permet d'affirmer l'existence de Dieu, qui me permet d'affirmer l'existence de l'âme, et qui me permet d'affirmer l'existence de Dieu. Je peux affirmer l'existence de Dieu par ma philosophie, je peux affirmer l'existence de l'âme par ma philosophie, et je dois affirmer l'existence de Dieu et l'existence de l'âme. L'ayant affirmé philosophiquement, je suis heureux de voir qu'au point de vue de la foi, ces deux grandes affirmations sont au cœur de ma foi.